le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, pour arrêter de se faire exploiter, la faute.
Ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour demain.
C'est lundi, dans mon lit, il y a 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés.
Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Il est 19h03 et c'est le premier Canu Info du lundi de cette nouvelle saison 2017-2018. Et on est super contents.
Et ouais, on est super contents. Non, il n'y a que moi. Non, mais on est vraiment tous super contents. Donc, aujourd'hui à l'international, on verra un point sur une grève historique à McDonald's au Royaume-Uni. On enchaînera avec un bilan de la répression à Hambourg. On passera ensuite par la Birmanie et ce qui s'y passe en ce moment. Et on terminera l'international sur une campagne pour la libération d'un certain Santiago Maldonado en Argentine.
Au niveau national, on va continuer par voir Maï, ce fameux traître qui est en train de se raconter que ses propres troupes sont des cons, donc c'est assez magique. On va continuer avec encore une intervention policière musclée qui est la personne quasiment morte, je crois. On va retourner sur la dernière victoire, enfin la première plutôt de victoire de Cédric Héroux en justice. On va aller faire un tour du côté de la SNCF qui a totalement craqué, qui a espéré, en tout cas quelques connards à l'intérieur de la direction, essayer d'imposer aux femmes cheminotes de porter des jupes en première classe. On va continuer par voir que l'année 2017 était une année record pour le CAC 40 et donc l'économie française se porte au mieux si on voit ça. Et on va finir sur les grèves dans l'ensemble des lycées et collèges de France.
Parce que c'est la rentrée aujourd'hui.
Eh oui, bienvenue aux élèves qui nous écoutent, vous êtes contents? Et on enchaîne avec le point sur McDonald's à l'international. Attention, c'est parti.
Ah, c'est la rentrée, eh oui. On est bourré, je suis désolé. Donc, cette rentrée, cette rentrée est historique pour beaucoup de choses. C'est la première rentrée de Macron, donc c'est bon, ça, on s'en fout. Mais le truc aussi bien, c'est qu'en Angleterre, en fait, a lieu pour la première fois depuis 1974, date d'implantation de McDonald's au Royaume-Uni, c'est la première grève dans cette entreprise. Donc, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'ils aient dû attendre autant de temps pour ça, mais bon, enfin, en attendant, c'est cool. Les mecs commencent à se bouger, et notamment, en fait, sur les classiques questions des salaires qui sont trop modestes et les conditions de travail et de sécurité de l'emploi. Donc cette grève qui est soutenue par des grands syndicats en fait oui, les grands syndicats de la restauration a pour motif majeur, oui, donc en fait que McDonald's a proposé, en fait officiellement proposé à ses employés de choisir soit entre des contrats stables avec un certain nombre d'heures fixes garanties et donc un salaire qui était garanti, ou soit le fameux contrat ASC anglais, qui est une nouveauté, une saloperie assez récente. Et ce qu'on appelle le fameux contrat 0 heure, qui est un contrat totalement flexible, où en fait d'un mois à l'autre, voire d'une semaine à l'autre, en fait les employés ne savent pas le nombre d'heures qui va leur être demandé par leur employeur, et donc leur rémunération varie aussi très fortement d'un mois à l'autre, et donc ils n'ont aucune stabilité dans leur emploi, et il y a des mois où ils bossent pas, il y a des mois où ils peuvent bosser beaucoup plus, et donc en fait ces employés, qui sont une très très faible minorité, il faut quand même l'admettre, mais c'est déjà un grand début, en fait manifester pour avoir des véritables contrats stables avec un nombre de garanties pour pouvoir simplement prévoir leur vie du jour au lendemain.
Donc on enchaîne avec la mobilisation internationale pour la libération d'un certain Santiago Maldonado. Alors Santiago Maldonado, c'est un militant argentin qui a été enlevé il y a un mois dans le cadre d'une opération de gendarmerie extrêmement violente contre une communauté mapuche dans le sud de l'Argentine. Alors dans cette région, les grands propriétaires terriens ont accaparé les terres originaires des communautés autochtones.
On pense bien fort à Benetton, big bisous.
Voilà, j'allais y venir. La compagnie Tierra del Sud Argentino, propriété de Benetton, qui est une multinationale italienne spécialisée dans la mode et l'habillement, et qui possède pas moins de 900 000 hectares dans le sud de l'Argentine, là où elle élève plus de 100 000 moutons qui fournissent 10% de la laine utilisée par la marque. Alors visiblement, les moutons sont mieux traités que les êtres humains dans cette région.
Ils rapportent plus de pognon surtout.
Ils rapportent surtout plus de pognon, donc ils sont mieux traités, c'est QFD. Alors ceux et celles qui résistent à ce vol historique et à sa perpétuation sont condamnés à subir la répression. En juillet 2016, Macri, qui est actuellement le président de l'Argentine, donc depuis novembre 2015, et qui est un riche homme d'affaires en parallèle, donc qui est évidemment pas du côté des Mapuches et des populations autochtones,
et un grand progressiste par ailleurs,
a affirmé à la télévision que la question du nombre de disparus, soit 30 000 sous la dictature argentine de 1976 à 1983, ne lui importait guère. Ce n'est donc pas un hasard si les méthodes de la gendarmerie utilisent la technique de disparition des militants, méthode d'ailleurs qui, rappelons-le, a été enseignée dans les années 70 aux militaires argentins par des anciens officiers français de la guerre d'Indochine et d'Algérie. C'est bien de le rappeler. Dernièrement, dans la nuit de jeudi à vendredi, plusieurs locaux de partis et d'organisations politiques d'extrême gauche ont été perquisitionnés à Cordoba au nom d'une certaine lutte antiterroriste. Tiens, ça nous rappelle quelque chose ici. Alors voilà pourquoi une campagne internationale est lancée depuis déjà plusieurs semaines. Il y a eu des rassemblements dans beaucoup de capitales d'Europe et aussi du monde, mais en Europe il y en a eu à Londres, il y en a eu à Madrid, il y en a eu à Barcelone, il y en a eu à Paris, pour exiger à la fois la libération de Santiago Maldonado, mais également la fin de la répression contre les militants, contre les communautés autochtones de Patagonie. Et donc on souhaite bon courage à cette mobilisation, et on exige nous aussi la libération de Sonido Maldonado.
Il y a un film de très bonne qualité, un documentaire qui s'appelle Les véritables couleurs de Benetton sur cette question-là, et dont je conseille tout à fait
le visionnage.
Le visionnage,
ouais, c'est pas de problème.
Merci.
Peut-être qu'on pourrait quand même rappeler à nos auditeurs qu'en fait les salariés créent la valeur malgré ce qui vient d'être dit, et pas les moutons. Voilà.
Merci pour cette précision en matérialisme.
Donc, sans mouton, on n'y va pas loin non plus.
On enchaîne soit avec la Birmanie, soit avec le bilan de la répression en Hambourg, comme vous voulez.
Eh ben, on va s'envoler pour la Birmanie, et là, ça sera pas franchement pour des vacances. Enfin, ça, en tout cas, dans des camps un peu space. Donc, depuis le 25 août, reprise des violences localement, près de 90 000 Rohingyas ont fui, et en fait, continuent à se réfugier vers le Bangladesh voisin, et des milliers sont encore bloqués à la frontière. Donc, en fait, c'est à peu près 10% de cette ethnie musulmane, qui est donc minoritaire dans un pays majoritairement peuplé de bouddhistes, qui est en fuite totale, et qui fuit le massacre en fait qui a lieu en ce moment dans cette zone. Donc si c'est passé, l'effet c'est donc ce 25 août, des rebelles de l'Aragan Rohingya Salvation Army, donc qui est l'armée de défense en fait du peuple Rohingya, ou en tout cas une organisation, ont attaqué un certain nombre de commissariats en réaction en fait au massacre et à la situation dans laquelle eux-mêmes étaient placés, et en réaction à cette défense de la part des Rohingyas, en fait l'armée a carrément attaqué la population locale et a tué plus de 400 morts. Donc il faut rappeler la situation de cette ethnie musulmane dans un pays qui rappelle vraiment de tristes moments de l'histoire européenne aussi. Donc considéré que par le gouvernement birman, qui est dirigé par la pseudo-prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, comme des immigrés illégaux alors qu'ils Bangladesh, alors qu'ils sont en fait présents sur ce territoire depuis plusieurs générations. On assiste donc en fait à l'heure actuelle un véritable génocide de cette population qui fait, comme je disais, plus d'un million de personnes. Une population qui est persécutée, placée dans des camps, privée d'écoles, d'hôpital et de travail, et régulièrement massacrée par les populations locales. Ainsi, en début de l'année, l'ONU parlait carrément de nettoyage ethnique pour se parler de cette situation. On notera le silence total de la part de notre belle diplomatie française, ainsi que l'ensemble de la diplomatie mondiale, car à l'heure actuelle, à part le pape et la jeune prix Nobel de la paix pakistanaise, dont j'ai oublié le prénom, je suis désolé, peu de personnes en fait se sont élevées publiquement pour dénoncer ce massacre. Donc comme on le voit une fois de plus, en fait, ce pseudo prix Nobel de la paix en fait, ne sert strictement à rien, et à partir du moment en fait, elle nous montre une fois de plus le racisme profond qu'elle a pu développer contre ces ethnies musulmanes qui, contrairement à ce qu'on peut penser sur la terre entière, en fait, en tant que musulmans sont aussi massacrés par d'autres connards que n'importe qui d'autre, en fait, qui sont totalement victimes une fois de plus de la bêtise humaine. Et contrairement à ce que beaucoup de hippies peuvent fantasmer, les bouddhistes prouvent une fois de plus que, comme n'importe quelle religion, ils sont capables des pires barbaries et des pires massacres.
Et on va du côté de l'Allemagne. On va reparler du contre-sommet qui a eu lieu à Hambourg et surtout de la répression qui s'en est suivie. Donc, pour rappel, le 7 et 8 juillet s'est tenu à Hambourg le 12e sommet du G20. Alors, pour rappel, hein, le G20, c'est une réunion de tout ce que le capitalisme fait de plus beau. Donc, Emmanuel Macron, Donald Trump, Jean-Claude Juncker, Christine Lagarde, tout ça. Je vais rappeler rapidement ce que c'est que ce machin. Donc, au commencement était le G5, censé répondre à la crise pétrolière. Il est créé en 74. Il réunit les États-Unis, le Japon, la France, la RFA et le Royaume-Uni. Il devient ensuite G6, puis G7 et aujourd'hui G8 avec l'arrivée dans l'ordre de l'Italie, du Canada, puis de la Russie. La Russie qui a été suspendue en 2014 et qui va être réintégrée au JOI cette année. Donc ça, c'est la grande messe des plus grandes puissances internationales, celle qui depuis des années sème la misère et la guerre un peu partout dans le monde. Et face à ce monde, en 89, il y a une organisation tiers-mondiste qui a émergé pour contrer le G20 et donc qui réunissait les pays émergents, c'est le G15. Et pour répondre à ça, les pays du G8 ont décidé de construire le G20. Et ont absorbé en fait une partie du G15 pour éviter que ceux-ci s'organisent indépendamment d'eux. Donc voilà ce que c'est le G20. Je vais vous éviter la liste de tous les pays qui participent, hein, mais faut savoir qu'il y a aussi tout un tas d'organismes internationaux comme la Banque mondiale et le FMI qui y sont conviés. Bref, c'est la foire aux puissants. Et donc face à cette mascarade, un contre-sommet a réuni plus de 100 000 personnes dans les rues de Hambourg pendant 3 jours et a donné lieu à une importante répression. Alors en amont, il y a un immense dispositif policier qui a été mobilisé pour tenter de dissuader les militants de se mobiliser. Les campements qui avaient été prévus dans la ville et qui étaient destinés à accueillir les militants ont bien souvent été la cible d'interdiction. Le gouvernement allemand a décidé de suspendre l'accord Schengen, donc le rétablissement du contrôle aux frontières pour le contre-sommet. Et je passe sur la pression policière, les nombreuses pressions policières qu'ont subi les militants locaux dans la période précédant le contre-sommet. Alors pendant la manif, c'était 20 000 policiers surarmés qui traînaient dans les rues de Hambourg. Les nombreux témoignages attestent d'une violence inouïe, d'un usage disproportionné d'armes dites à létalité réduite, alors surtout canons à eau et lacrymo et gros coups de tonfa. Cette folie policière a fait des centaines de blessés, elle a mené à 143 interpellations. Alors aujourd'hui, c'est 56 personnes qui sont poursuivies et une trentaine de différentes nationalités qui sont toujours en détention, notamment un camarade lyonnais. Et je sais pas, il reste au moins 2-3 camarades français, mais bon. Alors depuis, donc, hormis que nos camarades croupissent en prison, les enquêtes se poursuivent et la répression avec. Les autorités allemandes font état de 2000 infractions liées au contre-sommet, dont 575 dégradations, 330 blessures corporelles et 303 cas de troubles à l'ordre public pour lesquels des enquêtes sont toujours en cours. Ça veut dire que le bilan de la répression risque de s'alourdir dans les années à venir. Pour poursuivre dans cette logique répressive, presque deux mois après le contre-sommet, Thomas de Mazière, donc le ministre de l'Intérieur allemand, a annoncé la fermeture de l'indie média Linksunten, donc l'indie média allemand, ainsi que l'interdiction de son logo. Oui, 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 parce que le potentiel subversif d'un logo, c'est quand même pas rien. De nombreuses perquisitions ont été effectuées à la suite de cette interdiction, notamment dans un centre social de Fribourg qui a mobilisé 250 policiers anti-émeute. L'Allemagne a même demandé à la France de saisir un serveur. Et pour justifier ces perquisitions, la police a assuré avoir trouvé des armes dans les appartements des administrateurs du site avant de devoir avouer que c'était un gros mensonge. Et le mensonge, c'est très très mal. Dans le même temps, les premiers procès ont commencé à Hambourg. Et il y a un camarade néerlandais qui a été condamné pour violence grave contre les représentants de la force publique et rébellion à la suite de la manif du 6 juillet, donc c'est-à-dire la veille de l'ouverture du sommet. C'était la manif qui s'appelait Bienvenue en Enfer et qui avait rassemblé 12 000 personnes. Il est accusé d'avoir jeté deux bouteilles de bière sur un flic qui n'a pas eu d'ITT ni rien d'ailleurs. Et donc il a été condamné à 2 ans et 7 mois de prison ferme. Le parquet lui-même demandait 1 an et 9 mois, donc le juge a jugé opportun d'augmenter la peine déjà lourde que demandait le parquet. Il y a un autre camarade qui a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, et donc là les procès risquent de se multiplier dans les semaines à venir et ils vont vraisemblablement être extrêmement sévères. Donc l'objectif, hein, c'est de supprimer toute opposition aux pays impérialistes qui se réunissaient ce jour-là, toute opposition à l'État policier, aux politiques militaristes, au renforcement de l'appareil d'État, à l'austérité et plus généralement aux capitalistes. Face à ça, je crois qu'il faut montrer une fois de plus que notre solidarité, elle n'a pas de frontières et que c'est important de continuer à se mobiliser parce que l'heure semble un peu sombre pour les gens qui se mobilisent. Donc le 20 septembre à Lyon, il y aura un concert de soutien dont l'argent servira aux inculpés du G20 et ça sera à Gerland. Je pense qu'on fera plus d'infos sur internet.
Plus d'infos sur Rébellion comme d'habitude. Juste pour rebondir quelques secondes là-dessus, il y a un petit encart dans le Monde Diplo du mois d'août, je crois, qui est très très intéressant sur justement les chiffres des blessés de la police sur le G20 de Hambourg, où officiellement la police a annoncé en fait sur l'ensemble de ces 3 ou 4 jours plus de 425 policiers blessés. Et en fait, des journalistes ont eu l'intelligence de regarder ce qui a été un peu plus précisément. Et donc en fait, ils se rendent compte que déjà ces chiffres, c'est l'ensemble des policiers qui est sur le mois, et qu'une fois qu'on a enlevé en fait l'ensemble des policiers donc sur le mois, qui pourront regarder que ceux qui sont concernés ces 3 jours, et après qu'on a enlevé ceux qui étaient en fait qui avaient même pas des ITT de quelques heures et qui étaient revenus en poste le lendemain, on passait de plus de 400, on entre 500 à peine une dizaine de policiers réellement blessés qui n'avaient pas pu revenir sur le terrain le lendemain. Donc on voit une fois de plus aussi non plus la transformation et l'utilisation que les médias peuvent faire en amplifiant un phénomène alors que dans les faits très très peu de policiers ont été réellement blessés.
Voilà pour l'international. On passe donc maintenant au point national et on va aller donc du côté de Jean-Claude Mailly, ce traître, ce gros traître. Alors Jean-Claude Mailly, c'est le patron de FO. FO, c'est Force Ouvrière, un des syndicats qui s'était mobilisé, qui appelait à se mobiliser contre la loi travail.
Tu viens de dire le patron de FO.
Le patron de
donc
FO.
Donc c'est logique finalement ce qui va se passer.
Eh oui, c'est bien pour ça que je l'ai appelé le patron de FO, puisque il se prend vraiment pour un patron. Alors le mercredi 30 août dernier, donc la semaine dernière, il annonçait que la direction de Force Ouvrière n'appellerait pas à manifester le 12 septembre contre la loi travail XXL, contre les ordonnances Macron, contrairement à la CGT et Sud, qui tiennent la ligne de contestation totale hein, de ces ordonnances. Et il a affirmé par la suite, par rapport au nombre conséquent de certaines unions départementales de forces ouvrières, notamment dans le Finistère par exemple, ou en Ille-et-Vilaine, ou d'unions locales qui appelaient à cette grève et à ces manifestations, que c'était le fait de positionnement, je cite, anarchiste de militants de cette structure, histoire de minimiser un peu les prises de position, et en disant qu'évidemment, vu que c'est des anarchistes, ils s'opposent à tout, ils ne construisent rien, ils ne proposent rien, donc c'est évident, ils appellent à la mobilisation. Mais comme c'était pas suffisant, en fin de semaine, il s'est carrément foutu de leur gueule avec un mépris de classe particulièrement dégueulasse. Bon, alors il dit « Je ne suis pas un PDG, je suis un secrétaire général qui a un mandat. C'est toujours arrivé dans l'histoire de Force Ouvrière, il y a des grognards fidèles. » Donc ceux-là, ils les aiment bien visiblement, et des grognons râleurs. Bon bah, il y en a toujours qui font partie des grognons râleurs. En rajoutant, heureusement que nous avons fait notre travail syndical cet été. Assez surpris de ce petit rajout de fin de phrase. Quel travail syndical d'avoir absolument tout fait pour que les ordonnances soient effectives. Alors Maï, c'est un bon copain de longue date de Muriel Pénicaud, hein, la PDG de Danone, enfin l'ex-PDG de Danone, l'actuel ministre du Travail. Et il a passé son temps de cet été à conseiller Macron sur les ordonnances, en le tutoyant. Et il s'appuie notamment sur un certain Stéphane Lardy, ancien négociateur de Force Ouvrière, qui est aujourd'hui au gouvernement. Donc on peut assez facilement passer de la direction de Force Ouvrière au cabinet du ministère du Travail. Alors Maï se traite, oui. Mais peut-être espère-t-il, comme son pote Lardy, ou encore un certain François Chérec, ancien patron de la CFDT, qui était passé haut fonctionnaire en 2013 sous Hollande après avoir pété le mouvement de la réforme des retraites, peut-être espère-t-il avoir un poste de haut fonctionnaire ou au gouvernement dans les années à venir ou à la fin du quinquennat. Je veux dire, en tout cas, c'est la bonne stratégie à tenir. En tout cas, les syndiqués de base de Force Ouvrière savent bien, eux, qu'il faut se mobiliser contre les ordonnances s'ils veulent pas se faire virer en toute impunité patronale, que leurs droits soient considérablement diminués, que leur salaire soit considérablement diminué, etc., etc. On y reviendra tout à l'heure dans un dossier justement sur les ordonnances en détail. Il y a des sections de FO, des fédérations de FO qui appellent à la grève. Il y a des syndiqués de FO qui seront présents et ils ont bien raison. À titre d'exemple, il y a FO Transport qui appelle avec la CGT à une grève le 12 septembre et il y en a d'autres. Donc voilà, Maïs, le traître, dégage et
tous à la grève.
Et tous à la grève le 12 septembre.
Même oui. La commission exécutive confédérale appelle pas à la grève directement, mais en tout cas à se battre contre les ordonnances. Je cite, il dénonce une régression sociale et qui sont inacceptables, ce qui explique notamment, enfin non, et que FO votera contre. Donc du coup, même dans la confédération de FO, il y a l'air d'avoir des grosses dissensions. Je pense que ça va être compliqué. Les réunions doivent être assez compliquées en ce moment à la confédération. Ouais,
on peut rajouter que l'endroit où Maï déclare que c'est les anarchistes qui veulent tout détruire et qui s'opposent à la loi travail, c'est eux qui posent problème. C'est quand même une interview exclusive qu'il a accordée au magazine Les Échos. Ses nouveaux amis, bien entendu.
Voilà, camarades.
Mais du coup, ça se casse un peu la gueule, vu que la centrale appelle quand même au 12. Donc, Maï, en fait, si tu veux un bon poste, faut mieux jouer quand même.
Et donc, c'est à toi. Ça tombe bien, incroyable, sur les violences policières.
Moi, sur les violences policières, mon Dieu.
Non, ton Dieu, comme tu veux.
Bon, donc à Toulouse, à Toulouse, des policiers tabassent un homme menotté sous l'œil d'une caméra de surveillance. En effet, le 20 août, un homme est interpellé dans le métro toulousain dans le cadre d'un contrôle d'identité. Suspecté de se prêter à un trafic de stupéfiants, l'homme est conduit menotté dans un local de sécurité de l'entreprise de transport Tisséo. Une fois dans ce local, les deux adjoints de sécurité se mettent à tabasser l'individu toujours menotté. À l'écart, les deux policiers titulaires ne réagissent pas jusqu'à ce que l'un d'eux s'aperçoive de la présence d'une caméra de surveillance. Merde. Oups, bavure. Heureusement, les quatre agents de la paix ont écopé le lendemain, en comparution immédiate, de 18 mois, dont 10 avec sursis, pour usage disproportionné de la force, coups et blessures sur personnes vulnérables et complicité de torture dans le cas des policiers titulaires.
Pour une fois.
Hein ? Non, vous l'aurez compris, la fin de cette histoire est fausse. La justice d'État ne condamne pas les
fils
aînés.
Aïe, 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 c'est pas la première fois
de la journée que tu te fais avoir, ça, non ?
Pris la main dans le sac, la hiérarchie s'est résolue tout de même à formuler un signalement auprès du procureur de la République qui a saisi l'IGPN, à savoir la police des polices, de fait complaisante avec les collègues. Ne nous faisons pas d'illusions. Les sanctions, si telles qu'elles interviennent, ce qui est fort peu probable, seront de l'ordre du symbolique et n'entraîneront jamais une radiation des coupables. Bien évidemment, la justice expéditive, les comparutions immédiates, les peines d'emprisonnement sont en France réservées aux pauvres, habitants des quartiers populaires, si possible issus de l'immigration du Sud. Les Théo, Adama, Zied, Bouna, Lamine, Wissam et etc., victimes d'un terrorisme d'État à l'encontre des dominés, dont la prison constitue l'affectation probable et un outil de reproduction des classes.
Et une fois de plus, ça montre quand même pour une fois l'utilité de ces caméras de surveillance, dont à la base ont été installées pour traquer les criminels, les personnes violentes et les agresseurs. on trouve pas ceux auxquels
que
on pensait.
Que sont les keufs.
Que sont les keufs, en fait. On les trouve. On pensait, je pense pas que le gouvernement pensait spécialement à ceux en uniforme, mais au final, on arrive, les caméras nous aident à identifier des agresseurs, des personnes qui tabassent d'autres personnes. Mais donc,
juste,
au final.
Juste à les identifier, par contre.
Ah, bien sûr, alerte, bien sûr.
Ironie. Et bah du coup, pour continuer sur les keufs et leur méthode, leur sale méthode dégueulasse, le 22 juillet, le collectif Roya Citoyenne accompagnait 12 demandeurs d'asile pour aller donc à la PADA de Nice, la plateforme d'aide à la demande d'asile. Je suis pas sûre de moi. Le collectif avait informé les autorités qu'elle emmenait ces demandeurs d'asile à Nice. Et arrivé à la gare, c'est la PAF qui accueille donc les demandeurs d'asile et les personnes solidaires du
collectif. La police aux frontières.
La police aux frontières, pardon. Et qui décide donc de les emmener dans les locaux de la PAF à Menton en prétextant passer par une procédure normale. Alors en fait, les demandeurs d'asile vont rester 6 minutes à l'intérieur de la PAF de Menton et vont être conduits immédiatement à la frontière italienne. Alors c'est une entrave totale au droit d'asile, hein, parce que en fait, quand tu arrives dans un pays, tu as le droit de faire une demande d'asile et ensuite c'est au tribunal de décider quel État est compétent pour traiter de la demande d'asile. Alors, pour rappel, je ne sais pas si c'est la peine de le rappeler, mais il y a des accords qui s'appellent les accords de Dublin et qui permettent de renvoyer un demandeur d'asile dans le premier pays dans lequel il a été contrôlé par la police.
En Europe.
En Europe, considérant qu'en fait, c'est le premier pays, un peu plus que l'Europe d'ailleurs, parce que tous les pays sûrs, en fait, dans lequel a été contrôlé en premier le demandeur d'asile. Du coup, ça fait partie de la loi. Donc, des expulsions vers d'autres pays européens, c'est prévu par la loi. Mais néanmoins, c'est un juge d'en décider et non pas du tout à la PAF. Ce qui s'est passé dans ce cas-là, c'est qu'un des 12 demandeurs d'asile était en réalité mineur. Donc, il avait planqué dans sa chaussure une preuve de sa minorité, puisque la PAF avait falsifié sa demande d'asile. Et il l'a présenté à la police italienne qui a donc refusé, sachant que c'était complètement illégal, qui a donc refusé de prendre la demande d'asile du mineur isolé et qui l'a renvoyé auprès des autorités françaises. Et du coup, comme c'est le cas depuis un petit moment, ce que la PAF a fait, c'est qu'ils ont fait une reconduite illégale à la frontière, ce qu'ils font depuis quelques mois déjà dans la vallée de la Roya. C'est-à-dire qu'ils arrêtent les gens dans les gares. Les migrants, ils les arrêtent dans les gares qui sont à la frontière. Ils les emmènent 3 minutes à la PAF, ils leur font remplir 2-3 papiers et ils les remettent dans un train pour l'Italie. Comme ça, la police italienne ne se rend pas compte. En fait, ils font traverser illégalement la frontière aux migrants.
En leur faisant signer des papiers dans une langue qu'ils ne connaissent pas, en cochant les cases qui les arrangent.
Exactement.
En précochant les cases.
Exactement, et du coup c'est des reconduites complètement illégales à la frontière. Et aujourd'hui on a appris, et c'est une première victoire, mais qui j'espère en augure bien d'autres, puisque c'est quand même des agissements qui vont totalement à l'encontre du droit européen et du droit d'asile. Le préfet des Alpes-Maritimes a été enjoint par le juge d'enregistrer les demandes d'asile des intéressés, donc des 12 intéressés, parce qu'il a considéré qu'ils étaient illégalement empêchés de présenter une demande d'asile en France et que ça constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile. Le juge confirme, je cite, qu'il appartient au préfet des Alpes-Maritimes, qui avait été informé de leur volonté de solliciter l'asile en France, d'enregistrer leur demande d'asile avant de mettre en œuvre la détermination de l'État responsable. Donc c'est quand même une jurisprudence extrêmement importante, parce que depuis 3-4 mois, depuis 2-3 mois, cette manière de faire de la police française à la frontière italienne devenait hyper inquiétante, parce que c'était c'était vraiment totalement en dehors du droit. Donc on espère que ça va créer un vrai précédent judiciaire, parce que en termes de droit des migrants, c'est aussi là-dessus que le combat il se joue réellement. Et une fois de plus, on invite les soutiens, les personnes solidaires à documenter ce genre de pratique, parce que là, en l'occurrence, c'est la multiplication des vidéos qui montrent ces reconduites illégales à la frontière qui ont permis de porter cette affaire devant la justice. Ouais. Et donc, voilà, ils le font.
C'est carrément un travail documentaire qu'ils ont fait, Cédric Héroux et ses camarades du collectif CRS, collectif Roya Solidaire. Et c'est un travail super intéressant. Je rappelle que Cédric Héroux est multi-récidiviste et multi-condamné. Et que
il, de solidarité.
Voilà. Et que, voilà, on dit bravo à ces gens-là et continuer et solidarité avec eux.
Exactement. Et continuer le taf de documentation surtout. Ça marche des fois, pas souvent.
Alors passons maintenant à la SNCF et aux pratiques sexistes de la SNCF. Alors en fait, de Olympe de Gouges à Sylvia Federici, en passant par Louise Michel et Rosa Luxembourg, par le droit de vote des femmes et au droit à l'avortement, l'histoire a été ponctuée par de grandes luttes féministes. Et nous voilà en 2017, après toutes ces conquêtes, nous nous retrouvons avec des propositions toujours aussi conquérantes et innovantes vis-à-vis de l'égalité des sexes et du sexisme en général. Petit rappel des faits. Lors d'un CHSCT... Yes.
À l'époque où le CHSCT existait encore.
Voilà. De fin juin à Rennes, et dans le cadre de la nouvelle offre pro-première TGV Atlantique, la direction de la SNCF a fait savoir qu'elle souhaitait imposer aux femmes cheminotes en charge d'accueillir et servir les voyageurs en première classe de porter une jupe comme règle vestimentaire. Il paraît que la jupe serait plus élégante pour accueillir les voyageurs de première classe. Sans parler du fait que, selon ce qu'a dénoncé la CGT Cheminots de Rennes, le projet de la direction prévoit que l'accueil se fasse uniquement par des femmes. Oui, pourquoi pas, avec un petit verre de whisky à la main. Ces pratiques, ce ne sont pas une nouveauté au sein de la SNCF, même si la direction cherche souvent à se vanter d'une soi-disant égalité homme-femme au sein de l'entreprise. Ce sont donc des pratiques inadmissibles que l'ensemble des cheminots doivent refuser. Il n'est pas question de permettre que les collègues femmes soient victimes de sexisme de la part de la direction sans que personne ne réagisse. Du coup, la direction a fait savoir en CHSCT, toujours selon ce qu'a dénoncé la CGT Cheminots, que si jamais les cheminotes n'acceptaient pas cette nouvelle règle vestimentaire, la solution envisagée n'était ni plus ni moins que l'externalisation du service. Autrement dit, la direction ferait recours à la sous-traitance. Donc, ce que les cheminotes n'acceptent pas, on le ferait subir à d'autres femmes pour qui, en plus, ce serait plus difficile de s'y opposer sous peine de perdre leur emploi. Ce n'est pas un secret pour personne. Comment les entreprises sous-traitantes bafouent les droits des salariés, profitant du statut et des conditions de travail plus dégradées des salariés, si l'on compare aux cheminots et aux cheminotes embauchés directement par la SNCF. Donc, en tant que cheminote travaillant sur ces postes, l'option proposée par la direction se réduit concrètement à soit tu acceptes d'être la cible de pratiques sexistes, soit tu acceptes de perdre ton travail. Inchantable, inadmissible et inacceptable. Suite à la dénonciation de la CGT Cheminote de Rennes, la direction a démenti ces informations lors des déclarations à la presse. Donc, apparemment, pratique courante de la direction de la SNCF, qui annonce des mesures en projet en CHSCT ou dans des mesures dans des instances représentatives du personnel pour qu'après nier en bloc les informations divulguées par les syndicats. On comprendrait là encore pourquoi du comment de la volonté des patrons et du gouvernement Macron de supprimer le CHSCT comme l'une des armes de défense des intérêts des salariés malgré toutes ses limites. Mais si la direction a maintenant décidé de retirer son projet, et c'est tant mieux. Et dans tous les cas, nous n'allons pas rester les bras croisés devant ce genre de pratiques. Les discriminations, le sexisme n'est pas uniquement une affaire de femmes. Il est important de riposter tous ensemble et rester vigilants à ces propositions.
Il y a quand même, dans les hôtesses de l'air, il n'y avait pas le choix. Hein. Il n'y avait pas une compagnie où elles ne sont pas obligées de mettre une jupe.
C'est
C'est tout à fait vrai, mais en tout cas, c'est une petite victoire. Et comme quoi, faire une levée de bouclier immédiatement après ce type de proposition, et ben c'est la bonne chose à faire. Alors, on continue sur le plan national par une information toute récente sur les profits du CAC 40. Et, car c'est toujours pas la crise pour le CAC 40. En tout cas, alors que tous les chefs d'État justifient leur politique dégueulasse d'austérité par la crise, les grands dirigeants des multinationales voient leurs profits continuer à exploser. Parmi ces dirigeants des multinationales,
enfin, une bonne nouvelle.
Bah oui, parce que ce qu'on attendait du quinquennat Hollande, c'est que voilà, la croissance reprenne, les entreprises soient compétitives. Rassurons-nous, ça l'est.
Je sais pas pourquoi vous avez passé ce quinquennat à dire que du mal de Hollande.
Moi qui pensais que Hollande, avec ce socialiste de Hollande, c'était la bérésina pour les patrons, en fait, pas du tout.
C'est peut-être juste parce que Macron est arrivé au pouvoir, mais non, car le CAC 40 se porte particulièrement bien sur ce premier trimestre 2017, qui a été particulièrement fructueux. Les 40 donc plus grosses entreprises françaises ont annoncé que leurs bénéfices avaient atteint 51,6 milliards d'euros en 6 mois, soit seulement 25% de plus qu'au premier trimestre de l'année dernière.
C'est pas mal quand même.
C'est pas mal. C'est et pas soit mal. Plus que toute l'année 2009 entière.
Qui n'hésite pas à augmenter mon chômage de 25% au prochain.
Alors, juste quelques exemples. Sanofi a fait sur ce premier semestre 6,7 milliards d'euros, Total 4,5, la BNP Paribas 4,3, Safran 3,3 milliards, etc. Un certain Bernard Arnault, qui est quand même dans les plus hauts gradés des patrons du CAC 40, ne gagne que 2 millions d'euros par heure depuis le début de l'année. Eh oui, ça fait mal. Hein. Avec nos 1000 balles, on fait moins les malins. Bon, alors, les raisons. Pourquoi est-ce que depuis...
Attends, tu gagnes 1000 balles de l'heure, toi?
Ouais, à peu près. Ouais. Bon, alors, bref, les raisons. Depuis 2009, pourquoi est-ce que les profits explosent? Puisque toutes les entreprises ont ce qu'ils appellent serré les coûts, c'est-à-dire licencier relativement massivement, augmenter les cadences, abaisser les conditions de travail, etc., etc. Juste avec les profits de Sanofi, à titre d'exemple, hein, le trou de la sécurité serait comblé à plus de 85%. Alors, on s'attend évidemment à ce que ces profits continuent à exploser si on ne fait rien. Les ordonnances, on va y revenir tout à l'heure, mais allons exactement dans le sens de serrer les coûts. Ça va laisser les pleins pouvoirs aux patrons pour continuer à licencier plus facilement, à diminuer les conditions de travail, diminuer les salaires et finalement renforcer considérablement l'impunité patronale. On le verra tout à l'heure. Voilà, donc le CAC 40 se porte formidablement bien.
Et ben voilà une bonne nouvelle.
On enchaîne avec les lycées en grève.
Je suis choqué.
T'es choqué.
Car il y a des lycées qui n'ont pas repris aujourd'hui.
Ouais, il y a des lycées qui n'ont pas repris aujourd'hui, donc un peu partout en France. Enfin, des lycées, moi j'ai surtout entendu parler d'écoles primaires, mais bon, il y a peut-être des lycées aussi qui n'ont pas repris.
Dans le 93. Bon, tu sais pas, c'est pas grave. Il y en a eu dans le 93, mais parlons des écoles.
Oui,
alors.
À cause de la...
Ah oui.
Voilà,
elle a fait un geste quand même, hein, mais vous pouvez pas le voir.
Ça doit être à cause de ça,
de la mutation forcée d'un prof.
Le mime, ça marche pas à la radio.
C'est du 9-3.
Non, donc pour en tout cas pour continuer là-dessus, il y a pas mal d'établissements sont en grève dès le premier jour de la rentrée, ce qui est quand même pas mal, et ce qui veut bien dire que c'est un bordel pas possible comme d'habitude, que c'est absolument pas organisé. Et de façon, pour prouver en fait l'absurdité de tout ce qu'on peut voir, on a un cas un exemple très précis de façon beaucoup plus locale, donc voilà, la transition locale est faite, sur Lyon et sa banlieue. Donc une fois de plus, cette rentrée montre le fossé entre Lyon et sa très proche banlieue. Pendant qu'à Lyon, le nouveau maire de Lyon, Georges Képénékian, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, oui, on a enfin un nouveau maire, déclare que tout est en ordre de marche concernant la réforme du dédoublement des classes de CP en REP+. Donc certes, sûrement qu'à Lyon, absolument tout est en marche, mais il vous suffit de prendre quelques arrêts de bus un peu plus loin, et vous arrivez à Voie-en-Velin, où quand même 13 écoles sont en grève sur les 32 de la ville, pour dénoncer justement l'effet de cette réforme, l'effet d'annonce de cette réforme qui, dans les faits, notamment dans ces zones-là, les REP++, les vrais, habillent Pierre pour déshabiller Paul. Donc en concentrant en fait les effets sur les classes de CP, donc tout le budget,
est-ce
les professeurs...
Est-ce qu'on peut parler de l'expression que tu viens d'utiliser, où on laisse passer, normal?
Bon...
C'est
On prendra un dico de vieux français, promis, de vieux François. Mais mais donc, donc en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est un magnifique effet d'annonce. On met tous les moyens, on les concentre dans la classe de CP, on dédouble les classes et tout, c'est tout beau, c'est tout mignon. Sauf qu'en fait, les moyens, on les a pas sortis de nulle part. En fait, on a juste pas créé de moyens, on les a simplement déplacés et on les a retirés, notamment aux classes supérieures, qui font qu'en fait, à partir du CE1, en fait, il n'y a quasiment plus aucun moyen. Les classes se retrouvent totalement surchargées et que si vous n'avez pas réussi à briller dans votre année de CP, vous n'êtes pas devenu le meilleur de la classe. Ce qui est un peu compliqué vu qu'en général, de toute façon, il n'y en a qu'un. Et des années suivantes, vous retombez dans des conditions d'enseignement absolument exécrables, où vous êtes 40 par classe et que, en fait, vos profs, quelle que soit leur qualité, ne pourront pas assurer tout ça.
Et puis, surtout, ils ont été obligés de puiser dans le vivier de remplaçants, qu'ils soient TZR ou qu'ils soient juste contractuels. Et il n'y a plus aucune possibilité pour, par exemple, dans les semaines qui viennent, imaginons qu'un enseignant tombe malade. Je veux dire, ce serait possible. Cet hiver, par exemple, il n'y a plus aucun remplaçant.
Qui s'annonce rude, qui plus est,
probablement. Il n'y a aucun remplaçant qui ne pourra être disponible pour ces classes qui se retrouveront sans prof. Et donc, c'est les collègues dans ces écoles qui vont se charger d'une double classe de 20, 30 élèves, avec parfois 2 à 3 niveaux différents. Et c'est bien pour ça que dans ces REP+, ces profs sont en grève. Il y avait un rassemblement devant l'inspection académique tout à l'heure, d'une cinquantaine, soixantaine de personnes. Solidarité, on espère que cette mobilisation va marcher, même si c'est plutôt probablement par la convergence des luttes qu'on arrivera aussi à faire que ces revendications spécifiques à l'éducation, et il y en a d'autres, des suppressions de postes, la sélection au lycée, la sélection dans les universités, etc., qui va être renforcée justement par ces classes surchargées. C'est bien par aussi cette convergence des luttes qu'on arrivera peut-être à imposer un certain nombre de choses à ce gouvernement.
Et pour revenir sur la question de la sélection à l'université, qui est sûrement un point relativement important des luttes sociales à venir cette année, le ministre a annoncé la suppression d'APB, qui est donc la plateforme qui permet d'attribuer les places dans l'enseignement supérieur aux bacheliers. Alors la suppression d'APB, ça a créé la polémique parce que il y a des lycéens et des bacheliers qui se sont retrouvés sans affectation pour la rentrée. Donc c'est fort dommage, mais le problème de la non-affectation à la rentrée, c'est pas APB, c'est pas la plateforme, c'est le manque de place à l'université. Et en réalité, ce que cache cette suppression d'APB pour l'année à venir, c'est probablement une sélection sur dossier bien plus importante pour l'année prochaine. Et cette sélection sur dossier, on sait à quoi elle mène. Elle mène toujours à ce que ce soit les plus riches qui accèdent à l'université, que ce soit que toutes les classes populaires sont maintenues sans cesse dans des formations beaucoup moins valorisées que l'université. Et ça, la suppression d'APB n'y fera rien, puisque vraisemblablement la sélection va être extrêmement rude dans les années à venir s'il n'y a pas de places qui sont ouvertes à l'université. C'est vraisemblablement pas le chemin que prend le gouvernement.
Et il n'y en aura pas. Ça fait 40 ans qu'on sait que la population française augmente et qu'il n'y a eu aucun plan de construction de fac et de développement de recrutement qui ont été faits. Donc on sait que c'est une situation merdique qui va perdurer dans les années qui viennent, à part à construire des facs en préfa du jour au lendemain. Il n'y a pas, hélas, pas beaucoup de solutions.
À part en CP, il n'y a pas trop de place.
Oui.
Et puis, quand il n'y a que des riches à la fac, en cas de mouvement social, ça fait beaucoup moins de gens dans la rue aussi. C'est une façon de se défendre aussi.
Allez, on enchaîne avec le petit dossier, non ? Sur
une petite chronique avant.
Oui,
une petite chronique.
On inaugure. On a eu des petits problèmes, c'est la rentrée,
donc
on inaugure une magnifique chronique qui s'appelle, et qui j'espère perdurera malgré les opposants dans ce studio,
voire grandira,
qui s'appelle Sportlétariat, et qui est la chronique sportive du Canu Info du lundi.
Alors que la dictature fait rage au Brésil, une aventure unique dans le monde du football professionnel fait son apparition, la Democracia Corinthiana. C'est l'équipe de foot du Sport Club Corinthians qui était en D2 brésilienne. On est alors en 1981. Et c'est aussi et surtout un mouvement idéologique, une nouvelle façon de gérer et de jouer dans un club de foot.
Sócrates est son joueur emblématique, le meilleur joueur de football de sa génération. Mais c'est aussi un médecin et un type engagé. Il est accompagné de 22 joueurs, dont José María Rodríguez Alves, Vladimir Rodríguez dos Santos et Walter Casagrande. Le club est en autogestion. Toutes les décisions importantes sont prises à la majorité des joueurs. Les recettes sont redistribuées entre tous les employés. Leur premier entraîneur est aussi un de leurs joueurs, José María. Cette aventure fut possible grâce à Adilson Montero Alves, un sociologue de 35 ans qui a fait quelques années de prison pour ses prises de position politique à la fac. Et cette équipe qui n'hésite pas à prendre position politiquement, en affichant sur ses maillots le mot « démocratie » alors que la dictature militaire fait rage, a rentré sur le stade lors de la finale de la Coupe du Monde, la Coupe du Brésil 83 avec une banderole « gagner ou perdre, mais toujours en démocratie », finit par devenir un symbole dans tout le Brésil. Symbole difficilement attaquable par le pouvoir, car en plus d'être des porte-parole, leur football tourné vers l'attaque, débridé spectaculaire, plaît aux masses. Les résultats suivent, ils gagnent deux fois de suite le championnat. En prenant en main leur vie et leur travail, les joueurs de la démocratie corinthienne ont prouvé qu'exercer leur métier avec joie, en prenant en main leur outil de production, permet les meilleurs résultats. Finissons sur une citation de Sócrates, résumant parfaitement l'espoir que peut faire porter le sport quand il est politique. Nous exercions notre métier avec plus de liberté, de joie et de responsabilité. Nous étions une grande famille, avec les épouses et les enfants des joueurs. Chaque match se disputait dans un climat de fête. Sur le terrain, on luttait pour la liberté, pour changer le pays. Le climat qui s'est créé nous a donné plus de confiance pour exprimer notre art. Cette année, la démocratie, enfin, l'équipe de Corrientes, qui n'est plus du tout la démocratie Corrientes depuis 85, est actuellement premier au bout de 22 matchs. L'an dernier, ils étaient 7e. Du coup, on espère qu'ils arriveront quand même à une victoire encore cette année. Sinon, Lyon a fait match nul.
Ou pas.
Et bon. Et la France.
Tu peux couper le micro là.
On savait qu'on allait se faire censurer.
Toujours ces censures.
Bon, on continue donc. On va refaire un point sur les ordonnances. Hein, on en avait déjà fait au début des vacances, mais sauf que là, elles sont maintenant très claires. Donc c'était jeudi, hein, cette loi d'habilitation sur les ordonnances. Alors, dans les ordonnances, il y a plusieurs grands points. On ne va pas tout détailler. Il y a 36 mesures. Sur 36 mesures, il doit y avoir à peu près 35 régressions et peut-être 34 pour certaines organisations syndicales. En tout cas, dans les mesures phares, évidemment, c'est le renforcement de l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire faire passer les accords d'entreprise au-dessus des accords de branche qui sont eux-mêmes au-dessus du code du travail. Hein, c'était le principe de la loi travail, mais la loi travail, l'inversion de la hiérarchie des normes, c'était sur les salaires et le temps de travail. Maintenant, cette inversion de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire qui fait supplanter les accords d'entreprise et les accords de branche sur le code du travail, c'est sur les conditions de travail, les recours en cas de licenciement et sur les possibilités de licenciement du patron. Alors, on y vient sur ces facilitations des licenciements. Il y a plusieurs techniques maintenant. Hein. Alors, d'une part, c'est s'attaquer au prud'homme. Donc maintenant, quand il y a un licenciement considéré comme abusif, eh bien, au bout de 30 ans d'ancienneté, vous ne pourrez bénéficier au maximum que de 20 mois d'indemnisation, l'équivalent de 20 mois de salaire cumulé d'indemnisation, alors qu'auparavant, il n'y avait pas de maximum. En cas de 2 ans d'ancienneté, vous passerez de 6 mois à 3 mois maximum, et en dessous de 2 ans d'ancienneté, ce sera 1 mois maximum. Donc ce sera très facile pour un patron qui en a marre d'un salarié, le licencier abusivement et d'avoir à payer presque rien au regard de l'ancienneté de l'employé au prud'homme.
Le seul garde-fou qu'il y aura, c'est en cas de discrimination avérée.
Discrimination avérée, c'est ça. Racisme, homophobie.
Il faudrait que cette discrimination soit incontestable. Donc.
Voilà. Les recours aller au prud'homme, pour ça il faut faire un recours, ils sont diminués par deux, hein. Auparavant il y avait jusqu'à 2 ans pour faire un recours au prud'homme, et donc maintenant ce sera 1 an. De même,
la durée qui avait déjà été divisée par 2 sous le quinquennat Hollande, hein, C'était déjà passé de 4 à 2.
De toute façon, cette loi, c'est la continuité directe des mesures du quinquennat Hollande et Sarkozy, mais en plus puissant. Autre point, le patron n'aura plus, hein, puisqu'on va gagner ce mouvement social, besoin de motiver le licenciement sur la lettre de licenciement, ce qui permettra donc facilement au patron de ne pas avoir à donner de justification en cas de prud'homme, en cas de recours. Il y a également un changement de paramètre dans le cadre du licenciement économique. Bon, on a parlé tout à l'heure des multinationales du CAC 40, par exemple. Aujourd'hui, pour qu'il puisse y avoir un licenciement économique d'une multinationale, et il faut que cette multinationale puisse justifier d'une baisse de profit à l'échelle internationale. Aujourd'hui, cette justification ne pourra être plus que à l'échelle nationale, et donc on peut s'attendre évidemment à un certain nombre de falsifications à l'échelle des entreprises pour faire passer des diminutions à l'échelle nationale alors qu'elles ont eu lieu dans un autre pays, etc. Attendons-nous en tout cas à ce type de pratique des multinationales pour qui l'illégalité n'est pas un problème. Il y a également un autre cas de licenciement, c'est le refus de la reconnaissance d'un accord d'entreprise. C'est-à-dire qu'un salarié qui décide ouvertement de refuser une diminution des conditions de travail, quel que soit l'accord d'entreprise, s'il refuse son application, eh bien il pourra être licencié. Ce sera justifié donc parmi les licenciements possibles. Autre point sur ces licenciements, c'est le déguisement des plans sociaux, notamment les plans de départ volontaire. Les départs volontaires, ça permet d'ouvrir des droits pour les salariés. Eh bien, le patron pourra dorénavant faire des ruptures conventionnelles collectives, imposées comme déjà beaucoup de départs volontaires, mais sans les droits qui vont avec les plans de départ volontaires, comme les possibilités d'avoir des formations, les possibilités d'avoir un parcours particulier à Pôle emploi, etc., etc. Donc, voilà pour les licenciements. Je ne sais pas si vous avez d'autres points à rajouter. On continue. Donc, il y a également un autre point, c'est le contournement des organisations syndicales dans les petites et moyennes entreprises, notamment en donnant la possibilité au patron d'organiser totalement, d'écrire un accord d'entreprise et de le proposer à éventuellement un salarié qui n'est pas syndiqué, mais qui est autoproclamé représentant du personnel par le patron.
Ça, c'est dans le cas des entreprises de moins de 12 salariés, qui n'ont donc pas une obligation légale à avoir un délégué du personnel.
Voilà, donc ça c'est une manière de contourner les syndicats, et c'est une manière de faire signer des accords d'entreprise qui feront tendre vers le bas les conditions de travail des salariés. Il y a un autre point, c'est la fusion des instances dites représentatives des personnels. Donc là, dans les plutôt grandes entreprises, il y en a trois, c'est le CHSCT, le Commission Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail, le CE, donc le Comité d'Entreprise, et le DP, Délégué du Personnel, qui fusionnent en un seul et même comité de conseil d'entreprise. Voilà, donc ça diminue les possibilités de débattre des conditions de travail et de sécurité des personnels, et ça diminue le nombre de représentants, et donc ça diminue le nombre d'heures aussi pour d'éventuels délégués syndicaux, et donc de possibilités de se former pour connaître juridiquement le droit du travail dans tel ou tel secteur, ce qui permet de contester au patron quand il outrepasse un certain nombre de droits.
Ça les rend aussi plus vulnérables, dans la mesure où s'ils ne seront plus plusieurs dans les gros boîte, ce qui permettait de, si un des DP et enfin des délégués, des représentants du personnel étaient victimes de discrimination syndicale, les autres représentants du personnel pouvaient aussi monter au créneau. Là, ça va rendre ça extrêmement difficile. Donc, a priori, ça va quand même vraiment augmenter les licenciements abusifs pour les représentants du personnel.
Autre point des ordonnances, c'est la question de l'assurance chômage. Aujourd'hui, l'assurance chômage est gérée par l'UNEDIC, et pour pouvoir modifier l'assurance chômage, par exemple, comme quand il y a eu l'année dernière ou l'année d'avant la remise en cause des annexes 8 et 10 de l'assurance chômage, donc c'était il y a 3 ans, me dit-on, la remise en cause des annexes 8 et 10 de l'assurance chômage, c'est-à-dire les intermittents du spectacle, il faut des accords. Les accords UNEDIC, c'est entre les syndicats de personnel et les syndicats chaque patron. Donc c'est géré par les organisations syndicales. Et c'est tous les deux ans, et éventuellement ça peut être accéléré sur demande gouvernementale. Et
c'est ce qu'on appelle l'UNEDIC, qui est un organisme paritaire donc, où l'État est arbitre, mais qui est la rencontre quand même des différentes organisations patronales et syndicales.
Et cet organisme est financé par les cotisations salariales. Donc quand on travaille, toute personne qui travaille cotise pour l'assurance chômage et pour la sécurité sociale. L'objectif ici est de diminuer, voire supprimer complètement ces cotisations salariales et en parallèle d'augmenter la CSG qui est payée par absolument tout le monde, y compris les retraités, ce qui va donc favoriser une diminution, une décote des retraites pour beaucoup, beaucoup de retraités qui ont déjà des retraites plus que médiocres, voire très basses.
Oui, puis ça change complètement la logique assurantielle qui fonde la sécurité sociale en France, qui est quand même un truc qu'on a obtenu de haute lutte. Et ça change complètement la logique assurantielle. D'ailleurs, pour pouvoir mettre en place ce dispositif, ils doivent passer par une petite entourloupe juridique, parce qu'en fait, tu n'as pas le droit de faire payer une assurance à quelqu'un qui ne pourra par définition jamais en bénéficier. C'est le cas des retraités. Et du coup, ils ne peuvent pas concrètement appeler ça. Et c'est pour ça que c'est une cotisation de solidarité. Ils peuvent pas faire passer ça comme ça parce que c'est de toute façon complètement illégal. Tu peux pas payer pour une assurance à laquelle tu profites pas. Donc c'est vraiment en fait ils attaquent entièrement le système de sécurité sociale, à terme probablement tout le régime de retraite par répartition et voilà, c'est toute cette
logique. Et en termes de cotisation, on enlève aux salariés une fois au chômage la possibilité de justifier leur chômage parce qu'en fait ils l'ont travailler ce chômage, puisqu'en fait, ils ont cotisé pour ce chômage et c'est une partie de leur salaire qui leur est versée une fois au chômage. Et là, ça va être quelque chose qu'on leur donne. Et donc, on va, bien sûr, il y avoir le discours des assistés, des gens qui vivent au crochet des autres. Et voilà, en termes de communication, c'est
exactement
quand même,
c'est le même système, la culpabilité. C'est le même système de financement que le RSA, en fait. Et du coup, effectivement, on sait à quel point l'État cherche à stigmatiser les RMistes, enfin les RSAstes, pardon.
Et la CSG est également payée par les chômeurs. Donc du coup, c'est vraiment tout le monde qui les paye. Dès qu'il y a des revenus, en gros, il y a la CSG qui est payée. Donc là encore, pour le moment, il n'y aura théoriquement pas de diminution de ce qu'on touche au chômage. Mais à terme, on peut bien imaginer que la CSG s'aligne également pour les chômeurs.
Et pour finir sur l'assurance chômage, l'objectif, c'est qu'elle soit gérée directement par l'État et non plus par cette gestion paritaire, salarié, patron. Donc ça, c'est donc pour terminer sur l'assurance chômage. Et puis le dernier point, cet été, vous avez entendu parler des contrats aidés, ces fameux contrats aidés qui vont être massivement supprimés et qui touchent
180 000.
Qui touchent particulièrement les collectivités territoriales, la culture, l'enseignement et
le monde
associatif. Et alors évidemment, c'était des contrats précaires pour masquer les chiffres du chômage, mais c'est pour ces personnes qui perdent ces statuts de contrat aidé, eh bien, c'est un retour au chômage, un retour à plus de précarité, et c'est l'impossibilité de fonctionner pour bon nombre d'instituts culturels, associatifs.
Et là, on déshabille Paul pour habiller personne.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Et on vole aux pauvres pour donner aux riches. Et si on rajoute les baisses des APL, et si on rajoute bientôt la constitutionnalisation de l'état d'urgence, à savoir une répression open bar de la part de l'État, il va falloir se mobiliser, et le 12, il y a une grosse manif, il va falloir que le 12 et après tout le monde dans la rue, la grève générale, et n'hésitez pas à venir aux assemblées de lutte, en général c'est le mercredi soir à la Bourse du Travail, n'hésitez pas à en parler à vos proches, sur le lieu de travail, à vos amis, à votre famille.
Il y aura une assemblée à l'issue de la manifestation ou l'après-midi du 12 septembre aussi, venez-y, organisez pour qu'on s'organise ensemble.
Et vous nous entendrez lundi la veille, on redonnera peut-être toutes les infos, mais la manif c'est le 11, départ de la manufacture.
C'est le 12.
C'est à 11h, c'est ça que je voulais dire.
12h30.
À la manufacture des tabacs.
Vous trouverez les infos sur internet.
C'est
lundi prochain. Et en attendant, si vous voulez vous retrouver pour discuter de plein de choses super sympathiques, il y a la Caisse de solidarité qui reprend l'ouverture de son bar le premier jeudi de chaque mois à l'atelier des canuts.